La maladie s'est déclarée, j'avais 59 ans. Physiquement, j'allais plutôt bien. Et puis, j'étais à une réunion, une terrible envie de faire pipi qui me prend. Je vais aux toilettes et c'était du sang, que du sang. Après tous les examens, on a diagnostiqué un cancer de la prostate Gleason 9, c'est-à-dire une forme assez agressive qui n'était pas opérable et qu'on a traité avec chimio, radiothérapie et hormonothérapie. J'ai utilisé des herbicides, j'ai utilisé des fongicides, des insecticides. Quand on voyait des mauvaises herbes, eh ben on prenait le livre, on suivait la ligne et puis en face il y avait un produit. Et c'était vraiment, c'était magique quoi. On avait des solutions à tous les problèmes. Moi j'imaginais que les pesticides ils étaient dangereux si on les avalait, donc on prenait aucune précaution quoi. Moi j'ai été sur le pulvé, j'ai démonté les buses et j'ai soufflé dedans pour les déboucher. Quand c'était pas bien mélangé, on y mettait un petit peu la main pour que ça. Enfin, fait des tas de choses qu'on n'aurait pas dû faire, quoi.
There is no planet B. There is no planet blah. Blah, 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 blah.
Ce qui sortira de cette convention, je m'y engage, sera soumis sans filtre.
Hey, copanado.
Climat de lutte, c'est l'émission de l'écologie en lutte tous les jeudis soirs sur la clé des ondes 90.10 de 19h à 20h. Et en rediffusion le vendredi de 13h à 14h. L'émission de ce soir, vous l'aurez compris, va être consacrée aux victimes des pesticides. L'une de ces nombreuses victimes est Christian Jouot, un ancien éleveur breton qui se bat contre un cancer particulièrement agressif. C'est lui que nous venons d'entendre. Christian est membre de l'association Soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest et c'est au travers de ce collectif que nous l'avons plusieurs fois rencontré. Le combat de ces agriculteurs-agricultrices victimes des pesticides est au centre d'un ouvrage « L'agriculture empoisonnée » écrit par deux chercheurs, Giovanni Prêtre et Jean-Noël Jouzel, qui vient de paraître. Ces deux chercheurs ont mené une enquête minutieuse depuis plus de 10 ans pour suivre les exploitants agricoles, le mot a tout son sens, vous allez l'entendre, qui se sont regroupés dans une association phyto-victimes. En se concentrant sur cette association, ils ont pu tirer de nombreux fils que nous allons entendre développer ici par Giovanni Prêtre. Celui-ci était en effet l'invité de l'Axe Sens du Centre Émile Durkheim à Bordeaux le 23 mai dernier, une rencontre initiée par les deux associations Alerte Pesticides au Gironde et Alerte aux Toxiques et introduite par Magali Delasouda et Renaud Ourcade, tous deux chercheurs au Centre Émile Durkheim. On écoute tout d'abord Giovanni Prêtre présenter l'ouvrage qu'il a coécrit avec Jean-Noël Jouzel.
Donc cet ouvrage s'appelle « L'agriculture empoisonnée ». Et c'est un ouvrage en fait qui rend compte d'une enquête qu'on a commencée très exactement en 2011. À un moment en France où la question des pesticides et de leurs effets sur la santé et sur l'environnement était déjà une question controversée, mais peut-être moins qu'aujourd'hui, où il y avait moins d'associations spécialisées autour de cet enjeu-là. Il y avait moins d'associations locales. Ce qui a fait qu'on a commencé à travailler là-dessus, c'est qu'émergeait en 2011 une association qui s'est appelée Phyto-Victimes et qui avait la particularité d'être formée, créée par des exploitants agricoles. Et des gens qui venaient plutôt du productivisme agricole et qui commençaient dans l'espace public, dans la presse, à vouloir dénoncer les effets des pesticides sur la santé des travailleurs à partir de leur propre expérience de maladie. Donc, en gros, hein, comment fonctionnent les chercheurs en sciences sociales, des fois, alors Jean-Noël et moi, on s'intéressait déjà aux enjeux de santé au travail, de santé environnementale ou d'agriculture, mais on a commencé à voir apparaître des premiers articles de presse sur des gens qui demandaient des reconnaissances en maladie professionnelle, sur cette association. Et on s'est dit, c'est intéressant parce que, comme l'a dit Magali en introduction, c'était une association d'exploitants agricoles. Et donc ça posait la question des patrons qui, souvent dans l'espace des controverses autour des pesticides, sont plutôt accusés d'être des empoisonneurs, des responsables des contaminations environnementales, éventuellement des responsables des dommages sur la santé de leurs salariés, tout d'un coup prennent la parole en public et essayent de dénoncer les effets des pesticides. Et on s'est dit qu'il fallait suivre cela et comprendre ce qui émergeait, qui nous semblait une nouveauté, en fait, hein, nouveauté dans l'espace des mouvements sociaux organisés autour des pesticides. Et quand on a commencé à lire, on a vu qu'il y avait eu des mouvements de travailleurs préalables dans d'autres contextes. Alors, j'ai découvert depuis en Angleterre, mais à l'époque, on a lu beaucoup, parce que la littérature en sciences sociales qui s'intéressait à ces questions de controverse sur les pesticides, elle est surtout nord-américaine. Et en fait, quand on lit la littérature nord-américaine, il y a beaucoup de travaux sur les mobilisations environnementales et les mobilisations de travailleurs. Mais, et c'est pour ça que je vous ai mis une photo là, il y a beaucoup de travaux, mais c'est des travaux qui parlent beaucoup des mobilisations de salariés agricoles. Parce que dans le contexte, et notamment en Californie ou en Floride, donc des contextes agricoles où l'agriculture est très industrialisée, avec des très grandes exploitations agricoles, et énormément de main-d'œuvre salariée, souvent migrante, qui est utilisée pour mener à bien les tâches agricoles de collecte, mais aussi d'épandage, enfin, tout un ensemble de tâches qui peuvent être exposantes. Et au sein de ces mobilisations de travailleurs, les travaux qui décrivent en fait ces mobilisations de travailleurs, la question des pesticides, leurs effets sur la santé, est une question centrale depuis au moins les années 60-70. César Chavez, qui est un activiste très très connu, il est très connu à tel point qu'il a un bâtiment qui porte son nom à l'université de Berkeley, quand vous allez à Berkeley, hein. C'est quelqu'un qui est vraiment très très connu et qui incarne la lutte des travailleurs migrants. Il y a des livres qui ont été écrits sur lui, etc. Donc, les combats de travailleurs pour dénoncer les effets des pesticides sur leur santé, ça existe. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'est cette singularité un peu morale, hein, parce que, comme je le dis, il y a une double singularité par rapport au cas d'étude qu'on a étudié. C'est une singularité morale. C'est le fait qu'on était face à des victimes qui étaient loin d'être idéales, hein, des exploitants, en fait, des petits patrons. Et puis une deuxième singularité aussi par rapport au cas nord-américain qui est peut-être moins évidente et peut-être moins importante dans le livre, mais que quand même il faut noter, une singularité épistémique dans la mesure où beaucoup de mobilisations qui ont porté sur les effets de la santé sur les travailleurs agricoles aux États-Unis mais aussi en Amérique latine portent sur des mobilisations qui dénoncent un certain nombre de produits qui ont des effets aigus. En fait, ce qui était intéressant par rapport à ce qu'on observait, qui était naissant hein, au début des années 2010 en France, c'est que c'était des gens qui dénonçaient l'impact des pesticides en termes de maladies professionnelles, qui avaient des cancers, des maladies de Parkinson, des maladies qui se déclarent à long terme. Et donc, ce qu'ils dénonçaient, ce n'était pas des intoxications fortes, aiguës, facilement démontrables, où on pouvait mettre en cause finalement l'avion qui avait mal épandu, le produit, mais des intoxications qui s'étaient faites sur de nombreuses années et qui entraînaient des maladies, qui donc posaient des questions de démonstration de la causalité qui étaient particulièrement fortes. Et donc on a commencé à enquêter, en fait, sans trop savoir à l'époque où on allait, hein, puis Jean-Noël et moi on ne se connaissait pas très bien, donc on a aussi construit une amitié progressivement. Et ça nous a en fait mené sur une enquête qui a duré assez longtemps, hein, puisque le livre est sorti cette année. Et donc cette enquête, elle a duré de 2010 à 2014. Ce qui est assez intéressant en fait quand on fait des sciences sociales, parce que ça permet de pas s'attacher à ce qui se passe à un moment, mais de prendre le temps aussi de voir l'évolution des luttes, l'évolution des cadrages, l'évolution des personnes qu'on rencontre. Et puis ça nous a permis tout ce temps-là aussi de ne pas nous focaliser seulement sur les exploitants agricoles qu'on a rencontrés au départ et sur leur expérience de la maladie, qui était un peu le point de départ de notre enquête, mais de nous intéresser à toutes les personnes qui, en fait, gravitent autour d'elles, qui ont pu les aider dans leur démarche de reconnaissance, qui ont pu être des opposants. Hein. Donc, on a rencontré, en fait, au départ, surtout des exploitants agricoles, puis finalement on a rencontré leur famille, et puis on a rencontré des médecins, et puis on a rencontré des préventeurs, et en fait l'enquête elle a pris beaucoup 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 d'ampleur, et on en est très content, hein, mais voilà, le livre c'est le résultat Alors, on n'a pas compté précisément parce que ça n'a pas beaucoup de sens, mais on a fait plus d'une centaine d'entretiens, de multiples observations, et je vais vous raconter un peu les déplacements aussi que ça nous a amené à faire. On s'est intéressé à la manière dont les victimes agricoles elles faisaient le lien entre leur maladie et des expositions à des produits toxiques, et les difficultés qu'elles rencontraient en cumulant les traces, en essayant de s'allier avec des médecins, etc. etc. Et puis c'est une enquête aussi qui s'est élargie du très local, hein, de l'espace des exploitations familiales, au plus politique, au plus national, voire à l'international, quand on s'est intéressé aux relations aussi qu'il pouvait y avoir, à mesure que ces agriculteurs se politisaient, se constituaient comme un mouvement politique, pouvaient avoir avec d'autres groupes qui parfois étaient dans d'autres espaces nationaux. Alors, au final, hein, l'association qui est un peu le cœur de ce livre, Phytovictime, on ne parle pas que de cette association, mais on a vraiment construit le livre autour de cette association-là. On pourrait nous dire c'est un cas anecdotique, parce qu'en fait, c'est une association qui n'est pas si grande. Hein, c'est une association qui a 200, 300 adhérents et qui a accompagné... je crois que dans leur rapport d'activité, ils disent 500, 600 personnes dans les démarches de reconnaissance en maladie professionnelle. Et en fait, pour nous, ce n'est pas un cas si anecdotique parce que, justement, ces agriculteurs, ils représentent des agriculteurs qui sont assez majoritaires. Ça aussi, c'est peut-être une différence par rapport à des travaux qui peuvent exister en sciences sociales qui, sur l'agriculture, portent beaucoup sur le bio, les alternatives, etc. Là, on s'est vraiment confronté à des acteurs agricoles qui, à un moment, ont pris... le train du progrès et y ont cru, quoi. Et ça nous a aussi amené à réfléchir, ce passage de ces agriculteurs, de l'expérience de la maladie, et ce qu'ils en ont fait politiquement, à qu'est-ce que finalement notre petit cas pouvait dire des évolutions plus générales du monde agricole.
Vous écoutez Climat de lutte sur la clé des ondes avec Sylvie.
Et Climat de lutte ce soir donne la parole à Giovanni Prete et qui présentait récemment à Bordeaux l'ouvrage « L'agriculture a empoisonné » qu'il a coécrit avec Jean-Noël Jouzel. Une partie importante de cet ouvrage consiste à exposer en détail pourquoi il est si difficile aux agriculteurs que les deux chercheurs ont rencontrés et longuement interviewés de devenir victimes, car ce sont pour la plupart des exploitants agricoles, c'est-à-dire des patrons, d'exploitations plus ou moins grandes, mais ce sont des gens qui ont pour une bonne part cru au progrès, et le chemin est long pour finir par admettre que ce progrès les a empoisonnés, et encore plus long pour construire une cause, un combat à ce sujet.
Une des choses qui nous a frappé quand on a commencé à rencontrer les premiers agriculteurs, et leur famille, hein, parce que souvent les entretiens qu'on faisait c'était avec des agriculteurs, mais très vite les femmes des agriculteurs intervenaient dans les entretiens, parfois les enfants, c'est que toutes les histoires qu'ils nous racontaient, c'est que c'était des histoires complexes quand même. C'est-à-dire que souvent il se passait des années entre le moment où ils tombaient malades et puis le moment où ils arrivaient à mettre en cause les pesticides, et puis ils se disaient je vais parler pour dénoncer les pesticides, soit dans les médias, soit je vais adhérer à une association. Enfin, à une époque, hein, je veux dire, il y a 15 ans, où c'était beaucoup moins institutionnalisé, cette idée des victimes professionnelles des pesticides. C'était beaucoup moins, c'était une figure qui était beaucoup moins existante, beaucoup moins construite, beaucoup moins solide publiquement. Et donc, c'était des histoires complexes qu'ils nous racontaient. Et en fait, l'idée un peu centrale du bouquin, c'est qu'il ne faudrait pas penser que simplement parce qu'on fait l'expérience de la maladie, et qu'on pense que ça pourrait être lié avec les pesticides, aux pesticides, ça veut dire qu'on va tout de suite mettre en cause les pesticides et essayer de les dénoncer publiquement. C'est très compliqué, en fait, pour des gens qui, pendant 10, 20, 30 ans, ont utilisé des produits, ont fait utiliser des produits à leurs enfants, ont cru, ont enseigné, etc. C'est très difficile. Et en fait, c'est un processus d'essayer de réfléchir à l'expérience de la maladie comme l'aboutissement, enfin un élément, une phase, une séquence dans une carrière de victime, en fait. C'est-à-dire de dire, peut-être il y a eu des doutes sur la toxicité des pesticides bien avant la déclaration de la maladie. Et puis, c'est pas parce qu'on tombe malade qu'on va mettre en cause directement les pesticides. On va s'interroger auprès des médecins, on va s'interroger auprès de ses collègues, etc. etc. Et on va essayer de regarder qu'est-ce qui se passe dans cette carrière. Et ce qui nous a semblé assez évident, c'est que ce n'est jamais un agriculteur tout seul, du haut de son tracteur quand il tombe malade, qui se dit je suis tombé malade et donc c'est à cause des pesticides et donc il faut que je dénonce ces pesticides. En fait, ce qui va l'amener à nommer les pesticides comme un problème, les mettre en cause comme un problème, et à partir de là construire des revendications, claiming, hein, c'est un peu les trois séquences, c'est souvent des proches. Des intermédiaires, alors ce qu'on a appelé des intermédiaires de la victimisation, reprenant le terme de Yannick Barthes. Et parmi ces intermédiaires de la victimisation, donc des acteurs qui sont pas engagés dans les activités agricoles, qui n'utilisent pas forcément directement les pesticides eux-mêmes, et ben, un des premiers acteurs qui nous a sauté aux yeux quand on a fait l'enquête et auquel on s'attendait pas. Enfin, ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est le résultat de l'enquête, c'est-à-dire. Nous, on pensait rencontrer des agriculteurs qui allaient nous dire du mal des pesticides, et en fait, on s'aperçoit que c'est des agriculteurs qui, parfois dans les entretiens, n'en disaient pas tellement de mal, mais c'était leurs femmes qui en disaient du mal, c'était leurs enfants qui en disaient du mal. Et donc, en gros, le rôle des proches, et en particulier des femmes, on met beaucoup l'accent là-dessus dans l'ouvrage, qui vont les mettre sur la piste des pesticides, et qui vont encourager, en fait, quand les agriculteurs tombent malades, à explorer cette piste qui est au départ souvent qu'une petite hypothèse. Je veux dire, si j'ai un cancer demain du sang, une maladie de Parkinson, le médecin, et ça c'est aussi quelque chose qu'on a pu enquêter, sur lequel on a pas mal travaillé, va rarement vous dire spontanément que vous êtes agriculteur, ça devrait être les pesticides, parce que à l'époque il y avait des savoirs qui étaient existants, des savoirs épidémiologiques, mais souvent les médecins sont assez peu mal formés sur ces savoirs, et puis ils étaient moins construits, moins diffusés aujourd'hui qu'aujourd'hui dans les espaces médicaux, professionnels médicaux, ou que dans les espaces médiatiques plus généraux. Et donc, ce qui nous a frappé, c'est que on a rencontré une famille, une deuxième famille, une troisième famille, et qu'à chaque fois, ce qui ressortait, c'est que c'était souvent un proche, alors souvent une proche et une épouse qui poussait l'agriculteur à explorer cette piste et à engager des démarches de reconnaissance en maladie professionnelle, et pas des démarches d'ailleurs pour mettre en cause publiquement les pesticides ou pour obtenir justice, mais pour simplement parce qu'en fait souvent les femmes dans les familles qu'on a rencontrées, c'était aussi elles qui étaient en charge de la gestion des exploitations agricoles, qui étaient en charge de la comptabilité et qui étaient en charge des difficultés, enfin, de réfléchir aux difficultés financières, matérielles, éventuelles, que pouvait entraîner l'expérience de la maladie des agriculteurs. Hein, parce qu'un agriculteur, c'est un indépendant, c'est un exploitant. Et donc, s'il tombe malade, il n'y a personne pour faire la récolte ou le labour à sa place. Et donc, ça peut poser très rapidement. Hein, on a eu la crise agricole qui a permis à tout le monde de se rendre compte de ça. On est face à des entreprises qui peuvent avoir des capitaux énormes, mais qui peuvent être aussi très endettées et très fragiles d'un point de vue financier. Et donc, c'est les femmes qui ont beaucoup encouragé à ça. Et en fait, c'est un peu l'idée que j'énonce là dans la slide, quand le parcours fait le combattant. Ces femmes, elles se sont rencontrées finalement à des obstacles, c'est-à-dire des obstacles face à la caisse d'assurance sociale, qui est la principale caisse de sécurité sociale agricole, qui est la mutualité sociale agricole, c'est-à-dire l'impression de ne pas être soutenue, l'impression d'être face à des procédures compliquées. Elles se sont retournées parfois vers les syndicats, et notamment puisque la plupart des premières victimes qui ont fondé Phytovictimes, c'était des gens qui étaient très proches de la Fédération nationale des syndicats exploitants agricoles, donc des gens du syndicalisme majoritaire, des fins de non-recevoir du syndicalisme majoritaire qui n'avait pas envie de reconnaître les pesticides comme un problème, puisque la FNSEA, je vais le dire de façon un peu grossière, mais c'est assez juste, depuis 40 ans soutient en fait la promotion de la technologie pesticide, et elle continue à le faire, hein, la crise agricole récente le montre. Donc pas de soutien, en tout cas l'impression souvent de ne pas avoir de soutien de la MSA, pas d'avoir de soutien des médecins, pas d'avoir de soutien de la Fédération Fédération nationale des syndicats des exploitants agricoles. Et donc, ça crée un ressentiment de la part de ces femmes, et pour certaines, l'idée qu'il y a un combat à mener. Hein, c'est un peu le paradoxe, et les obstacles parfois font le combattant, en fait. Et alors, ce qui nous a beaucoup intéressé, ce qu'on a un peu creusé, du coup, on a rencontré ces femmes, on leur a parlé, on a essayé de croiser, en fait, les observations qu'on pouvait faire avec des données de sociologues ruraux qui travaillent sur l'évolution des mondes agricoles. En fait, ce qui nous a frappé, c'est qu'en fait, ces femmes, très souvent, elles ne travaillaient pas elles-mêmes dans le monde agricole, et que cette distance au monde agricole leur donnait une distance aussi face à la technologie des pesticides qui permettait plus facilement de la mettre en cause. Je vous donne des exemples très basiques, hein, mais le fait de ne pas travailler sur une exploitation agricole, le fait par exemple d'être beaucoup de femmes qu'on a rencontrées qui étaient des femmes d'exploitants agricoles tombées malades, étaient secrétaires, secrétaires médicales, secrétaires de mairie, anciennes institutrices, enfin, des gens qui avaient, des femmes qui avaient des profils plutôt dans le tertiaire. Eh bien, le fait de ne pas travailler dans le monde agricole fait que quand elle rentrait à la maison d'une journée de travail, eh bien, elle sentait l'odeur des pesticides. Voilà. Cette mise à distance, elle peut passer par le corps, hein, le fait de sentir l'odeur, et donc de ne pas aimer cette odeur-là. Et puis le fait aussi d'être moins attaché à cette technologie, tout simplement. Et donc, ça nous a amené, hein, nous, donc, du coup, dans le bouquin, à explorer cette place importante des femmes dans l'engagement dans les carrières victimaires et ce lien, en fait, de ce qui pouvait se jouer dans la sphère intime qui permettait de comprendre pourquoi il faut attendre 2010 pour que émerge un mouvement des victimes des pesticides. Bah, parce qu'on est face à des maladies à délai de latence long, parce qu'on est... Enfin, il y a plein d'évolutions sociales, mais une des évolutions sociales, c'est aussi le fait que la structure des familles agricoles, elle est de plus en plus composée d'hommes et de femmes qui travaillent hors de l'exploitation agricole, et que cette hors de l'exploitation agricole permet aussi d'identifier la technologie pesticide comme problématique et de la mettre en cause. Alors, les femmes et les proches ne sont pas les seuls acteurs qu'on a rencontrés et qu'on a vus comme des acteurs importants, comme intermédiaires de la victimisation. On fait plusieurs chapitres dans l'ouvrage où on revient sur un certain nombre d'autres acteurs qui ont joué un rôle important. Et parmi ces acteurs, je vais en évoquer trois ici. Ce sont les professionnels des médias, les militants environnementalistes et les cabinets d'avocats, les juristes en fait. Hein, qui, ça c'est aussi très frappant et on a pu en fait les suivre. Donc on a rencontré pas mal de journalistes, on a rencontré beaucoup de militants. Et alors des avocats, on en a rencontré quelques-uns, mais un peu moins, parce que finalement, très rapidement, la cause des victimes des pesticides va être prise en charge par un cabinet principal d'avocats qui s'occupe aujourd'hui de, je pense, 80% du contentieux et des procédures de reconnaissance, qui est le cabinet Tessonnière, Lafort Tessonnière Topalov, et qui est connu pour avoir beaucoup milité aussi pour d'autres types de victimes, les victimes de l'amiante. Enfin, voilà, c'est un cabinet qui est très engagé dans les enjeux de santé environnementale. Et en fait, donc ces acteurs hein, qui ont des noms, hein, là je les ai mis en termes de catégorie, mais voilà, professionnels des médias, par exemple, je peux vous évoquer ici Marie-Monique Robin, qui est connue pour un ouvrage, un livre qui s'appelle « Le monde selon Monsanto », qui est une figure médiatique, voilà, journaliste d'investigation, elle a joué un rôle très important pour encourager les premières victimes qui ont parlé dans la presse, pas seules, hein, pas uniquement elles, mais avec d'autres, à se réunir et à se concevoir comme un groupe. Hein. Je dis elle a joué un rôle très important, je vous donne un petit exemple. Par exemple, quand l'association est créée, donc elle se crée sur l'exploitation d'un agriculteur qui s'appelle Paul François, qui est connu aujourd'hui parce qu'il a fait un procès contre contre Monsanto suite à son intoxication à un produit qui s'appelle le Lasso. Et bien, quand il réunit pour la première fois en 2010 et puis pour la deuxième fois, le moment où ils vont créer l'association de façon officielle en 2011 sur son exploitation, quand il réunit les victimes sur son exploitation, eh bien, il va y avoir Marie-Monique Robin qui va être là pour filmer. Et elle en parle d'ailleurs dans ses ouvrages et dans ses films. Et donc, elle va les encourager. Et c'est intéressant le rôle des médias, parce que les médias, c'est des, comme d'autres, hein, comme les militants environnementalistes ou comme les cabinets d'avocats, c'est ce qu'en sociologie, on pourrait dire des fournisseurs de cadres moraux. Hein, je le dis de façon un petit peu simple comme ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand vous rencontrez un journaliste, il va mettre en scène votre histoire, il va raconter votre histoire, et il va vous donner la possibilité aussi de vous voir comme un autre. Hein. Alors, il va vous raconter votre histoire parfois en vous racontant de façon, d'une façon dans laquelle vous ne vous reconnaissez pas. Mais des fois aussi, ça permet de comprendre que, ah tiens, il parle de moi, je vous donne un terme, un concept qui est très développé aujourd'hui, comme un lanceur d'alerte. Peut-être je suis un lanceur d'alerte. Hein. Je n'avais pas pensé que je serais un lanceur d'alerte, mais le journaliste en parle. Donc, les professionnels des médias vont jouer un rôle pour construire aussi la lutte et pour donner des cadres de compréhension pour les victimes qui, en fait, elles ont des représentations de leur situation, elles ne sont pas sans cadre, mais elles vont leur donner des cadres nouveaux et inscrire par exemple leur lutte dans une série d'autres luttes, hein, parce que y a un style journalistique, il y a une rhétorique journalistique qui fait que quand on travaille sur des victimes environnementales ou des victimes du travail, on va essayer de trouver un méchant, un gentil, on va essayer de réinscrire la lutte dans une série de luttes, et donc on va par exemple faire un parallèle avec les victimes de l'amiante, et tout ça, ça a des effets en fait subjectifs qui vont travailler les victimes et les inviter à se construire elles-mêmes comme des victimes des pesticides et à se regrouper. Alors les médias peuvent jouer un rôle beaucoup plus simple. Une des particularités de l'activité agricole sur laquelle je n'ai pas insisté jusqu'à présent, c'est que c'est une activité qui est éclatée d'un point de vue géographique et spatial. Les sociologues des mouvements sociaux savent l'importance de la géographie, pourquoi il y a des grèves plus facilement dans les grandes usines ou dans les grandes industries, parce que les travailleurs sont là. Pourquoi le télétravail pose des problèmes aux syndicats, parce que ça casse les collectifs. Et en fait, construire des collectifs militants dans l'espace agricole, c'est pas si simple de se rapprocher des gens. Et en fait, les médias vont pouvoir jouer ce rôle-là, parce que si je lis dans la presse qu'il y a on a beaucoup d'anecdotes qui nous ont été racontées par des gens. Comment ils ont rencontré d'autres victimes? Eh bien, simplement parce qu'ils ont lu des articles de presse et qu'ils ont pu les contacter. Voilà. Donc, ça crée aussi des liens. C'est pour ça qu'ils sont des intermédiaires de la victimisation, à la fois par les cadres qu'ils présentent et parce que, tout simplement, ils permettent de mettre en lien les gens. Donc, d'autres acteurs, les militants environnementalistes, et notamment une association qui va jouer un rôle particulièrement important dans... la mise en mouvement, on a écrit un article qui s'appelle comme ça « La mise en mouvement des victimes des pesticides », c'est l'association Génération Future, que ceux qui travaillent sur les pesticides connaissent, qui à l'époque, il y a 15 ans, était plus petite qu'aujourd'hui, en tout cas moins connue, moins visible, qui s'appelait encore le Mouvement pour la défense et le respect des générations futures, le MDRGF, association fondée par un agronome qui s'appelait Georges Toutain, qui aujourd'hui est animé par... François Bayrette, Nadine Lauvergeat, et qui, en fait, est une association qui s'est beaucoup spécialisée sur la question de la dénonciation des effets sanitaires des pesticides dans l'espace des mouvements sociaux français, et qui est la première, en tout cas, association qui s'est vraiment spécialisée sur cette chose-là. Alors, quand je dis ça, je ne dis pas du tout qu'il n'y a pas eu de... Enfin, je veux dire, si on remonte aux années 60-70, il y avait des groupes militants qui dénonçaient les pesticides, les mouvements bio... Le syndicalisme non majoritaire, ça a été un élément de discussion. Mais une association qui s'est spécialisée vraiment sur la cause des pesticides, c'est arrivé vraiment dans les années, assez récemment, dans les années 2000. Et ça a joué un rôle important parce qu'eux-mêmes, ils ont servi d'intermédiaire, de mise en relation des victimes les unes avec les autres, et d'encouragement, en fait, à ces agriculteurs qu'on a rencontrés à se constituer, à créer une association et à aller voir des avocats, et notamment un avocat en particulier qui est le cabinet La Forgue, Tessonnière, Topalov, qui en fait a accompagné les victimes dans leur démarche.
Dans leur ouvrage « L'agriculture empoisonnée », Giovanni Prete et Jean-Noël Jouzel évoquent longuement l'histoire de la reconnaissance des accidents du travail, fin 19e siècle, élargie aux maladies professionnelles qui date, elle, de 1919. La procédure qui a été choisie induit une présomption d'origine pour ces maladies. À partir du moment où on a travaillé en contact avec une substance, encore faut-il qu'elle soit inscrite dans le tableau, il y a présomption d'origine professionnelle, ce qui coupe court à toute recherche de responsabilité pénale, par exemple. L'effet pervers, c'est donc une élision de la responsabilité et cela permet de faire entrer la réparation des maux du travail dans une logique assurantielle. Les victimes sont alors des victimes sans crime. Lorsqu'on se concentre sur ces dispositifs d'indemnisation, on relègue forcément au second plan le contrôle, par exemple, des substances chimiques et le débat sur les modèles agricoles. Le procès de Paul François contre la firme Monsanto, dont vous avez tous entendu parler, est à cet égard exceptionnel et unique dans la démarche de phytovictime. Il démarre une jurisprudence puisque c'est un coformulant caché qui est à l'origine de sa maladie. Cela ouvre la brèche à la poursuite des fabricants par les victimes. On écoute Paul François à la sortie du procès en appel contre Monsanto. Procès victorieux au terme de plusieurs années d'un combat harassant.
Peu de terre, il peut gagner contre peu de fer, et un géant comme Monsanto n'est pas au-dessus des lois. Et j'aimerais cette victoire, et parce qu'on ne reviendra plus maintenant en arrière sur cette victoire, je la dédie à tous mes collègues, à tous ceux qui sont malades, à tous ceux qui sont morts, parce que des agriculteurs sont morts des pesticides en France et ailleurs. Et donc ça montre à quel point ces firmes, avec beaucoup de cynisme, sont capables de commercialiser des produits qui nous mettent en danger, nous, agriculteurs, et peut-être d'autres, bien sûr.
Ce procès exceptionnel est quasiment unique dans le paysage français, et le combat des victimes se concentre la plupart du temps sur leur indemnisation, qui passe par la reconnaissance de la maladie professionnelle.
En fait, ce qui existe en France, c'est des tableaux de maladies professionnelles, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Et donc, il y a quelques tableaux qui existent, il y en a plus aujourd'hui, mais il y avait très peu de tableaux qui existaient sur pesticides et maladies professionnelles en 2011-2012. Depuis, il y a des tableaux sur la maladie de Parkinson, pardon, le tableau sur les cancers du sang, le tableau sur les cancers de la prostate qui ont été créés depuis 3 ans, je vais revenir là-dessus. Et en fait, le droit de la reconnaissance des maladies professionnelles, c'est un droit assurantiel, en fait. C'est-à-dire que quand vous êtes victime du travail, si vous répondez à un certain nombre de critères qui sont inscrits dans ce tableau, vous pouvez obtenir une réparation. Et en fait, ce système, il a été mis en place il y a plus d'un siècle déjà, en 1919, et il visait à pacifier, en fait, l'espace des luttes. Mais on peut aussi l'utiliser, c'est ce que va encourager à faire le cabinet d'avocats à la Forgue, on peut utiliser ce droit de la réparation pour donner de la visibilité médiatique à des enjeux et comme une première étape pour des actions qui sont plus conflictuelles en justice. Et donc c'est ce que va faire en fait le cabinet d'avocats, il va à la fois accompagner les gens dans leur démarche de reconnaissance en maladie professionnelle, mais il va aussi essayer, autour des décisions favorables qu'il va obtenir, s'appuyer sur ces décisions pour construire une jurisprudence et pour construire un certain nombre d'argumentaires juridiques qui peuvent être construits pour mettre en cause les pesticides comme technologie de façon plus générale. Et donc, ces trois acteurs, ces contempteurs du productivisme, comme on les appelle dans le bouquin, qui peuvent être très différents, qui peuvent être en alliance les uns avec les autres ou pas, en fait, ils vont tous contribuer à être des intermédiaires de la victimisation et à permettre et à encourager en fait, ces victimes à se construire comme victimes et à se réunir dans une association et à prendre en fait, une place dans l'espace public et dans les controverses publiques autour des pesticides. Et ils vont leur permettre aussi de construire des cadres d'injustice et notamment un cadre d'injustice qui va être assez fort, qui va être assez présent, c'est de les amener à considérer qu'ils ne sont pas responsables de leur intoxication, mais que s'ils ont été intoxiqués, c'est parce que, en gros, ils ont été pris dans un système agricole où ils ont été largement encouragés à utiliser des pesticides, et un système agricole qui a été aussi largement dépendant des pesticides parce qu'il y a des firmes qui ont minimisé la toxicité de ces substances et qui ont tout fait pour encourager les pouvoirs publics à créer un système qui permette de vendre leurs produits. Donc, ce que Yannick Barthes appelle un pouvoir d'exculpation, par opposition à inculpation, c'est-à-dire pour ne pas se sentir coupable, il faut bien qu'il y ait quelqu'un d'autre qui soit coupable de cette situation-là. Et donc, les autres coupables, ça va être au premier rang les firmes, et dans un second temps, de façon peut-être plus problématique pour les victimes des pesticides, je vais y revenir, l'État aussi. Voilà. Donc ça, c'était la première étape, la mise en mouvement, la construction des victimes de l'intérieur. Et ça leur a permis donc de créer un mouvement, et on raconte ça, qui a eu des effets politiques non négligeables. C'est-à-dire qu'entre le moment 2010 où l'association elle commence à être structurée, et puis aujourd'hui, 15 ans après, près de 15 ans après, il y a eu un certain nombre d'évolutions qu'on peut voir en partie, en grande partie, comme un succès politique de la part de ces victimes, de ces phytovictimes, et de leurs alliés, des associations environnementales. Et donc, parmi ces victoires, je l'ai dit, il y a eu la création de nouveaux tableaux de victimes de maladies professionnelles en lien avec les pesticides. Et il y a eu aussi la création d'un fonds d'indemnisation des victimes des pesticides en 2020. C'est pas un vrai fonds dans le sens où il ne sort pas de la logique forfaitaire du système des tableaux de réparation de maladies professionnelles habituelles. Mais il ouvre quand même quelque chose qui est nouveau et qui est intéressant. C'est la possibilité pour les enfants les enfants exposés par des parents qui ont utilisé professionnellement des pesticides de se faire reconnaître. Et j'en parle parce qu'en fait, c'est sur ce sur quoi on est en train de travailler avec Jean-Noël, qui est la suite un peu de notre enquête. Donc en fait, voilà, là je raconte comment, et on raconte dans le bouquin, comment cette association s'est créée, comment elle n'avait rien d'évident et comment elle a dû reposer sur l'aide, sur l'appui de tout un ensemble d'acteurs externes et comment, en se créant, en fait, elle a essayé de trouver sa place au sein du monde agricole. C'est aussi qui est intéressant, c'est-à-dire que je vous ai dit que c'était des exploitants qui venaient du syndicalisme majoritaire, qui venaient souvent de droite ou de centre-droite, et qui ont dû, pour pouvoir se concevoir comme victimes, rencontrer des acteurs militants, des acteurs médiatiques qui étaient très loin de leur monde social d'appartenance au départ, mais qui ont essayé de s'affranchir aussi, hein, c'est-à-dire de pas forcément suivre tous les conseils ou toutes les attentes de ces acteurs-là, notamment autour de la conversion au bio. Hein, beaucoup d'acteurs qu'on a rencontrés, je vais y revenir dessus, ne se sont pas convertis au bio malgré leur maladie et malgré leur remise en cause des pesticides, et se sont concentrés vraiment sur les questions de réparation et d'augmentation des droits pour les travailleurs victimes des pesticides. Et en fait, on construit un militantisme assez institutionnel qui s'est fait reconnaître assez rapidement par l'État. C'est-à-dire que Phytovictimes, c'est assez fascinant, mais en quelques années d'activité, a occupé des places assez fortes. Une place, par exemple, à la Commission supérieure des maladies professionnelles, une place au comité de suivi du plan Ecophyto, a été reconnue par le ministère de l'Agriculture, qui au départ ne voulait pas en entendre parler, par l'ANSES, comme un partenaire avec qui on pouvait discuter. On s'est intéressé aussi aux concurrences, aux forces centrifuges, aux tensions qui ont traversé le mouvement à mesure de son institutionnalisation, et en fait à ce qu'elle révèle aussi des controverses plus larges autour du futur des mondes agricoles. Alors, on en a travaillé plusieurs dans le bouquin, de ces concurrences, ces forces centrifuges au travers différents chapitres. Peut-être une dont je peux parler, c'est la place des salariés, finalement, dans cette association, et de la défense qui sont eux aussi exposés aux pesticides. Et en fait, ce qu'on raconte, si je le dis de façon assez simple, c'est que ça n'a pas été très facile pour des exploitants agricoles, pour des petits patrons, de construire un mouvement politique qui défend en même temps les exploitants et les salariés agricoles. Pour une raison, pour des raisons qui sont assez simples, hein, si on y réfléchit. Une première raison, c'est que, en fait, on construit toujours une représentation du risque par rapport à sa propre position. Et donc, la position des exploitants agricoles, leur représentation du risque, elle est construite par des années de discours de prévention, par des messages de prévention qu'ils ont reçus, par des formations et par leurs propres activités agricoles, eux. Et donc, tous les discours de prévention des années 60, 70, 80, au moment où ils ont été formés, et leur propre représentation, c'est que c'est quoi le moment où on s'expose le plus aux pesticides ? C'est au moment où on traite. Hein, c'est au moment où on prépare la bouillie, c'est au moment où on traite. Ce qui n'est pas forcément vrai. Il y a des travaux d'épidémiologistes ou d'ergonomes qui montrent qu'il y a parfois autant, voire plus d'expositions qui peuvent se faire dans des tâches qui ont l'air comme ça moins, on appelle ça des expositions indirectes, hein, quand on manipule des végétaux ou des fruits qui ont été traités, quand on taille, quand on se promène à proximité de champs qui sont en train d'être traités, hein, on peut être plus contaminé, plus exposé dans ces moments-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne pense pas qu'on peut être contaminé, exposé, donc c'est aussi des moments où on est moins protégé, souvent. Hein, donc là, c'est un premier élément qui a rendu difficile pour les exploitants le fait de se représenter la contamination des salariés, hein, les messages de prévention et leur propre représentation du risque, si je le dis de façon synthétique. Une deuxième chose, c'est que poser la question des salariés, c'est reposer la question de la culpabilité. En fait, quand je suis exploitant, hein, vous savez peut-être pas, mais dans le code du travail, un exploitant, il peut faire ce qu'il veut pour sa santé. Par contre, il a des obligations de prévention et de protection de ses salariés. Et donc, en gros, si je reconnais qu'il y a des salariés qui sont victimes des pesticides, eh ben, ça pose la question de la responsabilité des exploitants en général par rapport à la contamination des salariés. Alors, pour les phytovictimes, éventuellement de leurs propres salariés, mais d'une manière générale, hein, ça peut créer un facteur de dissension dans le mouvement. Il peut y avoir une crainte autour de ça. Et donc, c'est un sujet qui a été... qui a été au départ assez dur, assez peu thématisé, assez peu traité par le mouvement au début quand il s'est construit. Et la figure du patron était centralement évidente pour tout le monde. Et en fait, il va y avoir des acteurs hein, qui vont contribuer à rendre cette figure du salarié inévitable. Ça va être des militants en fait qui vont la mener, qui vont en fait rentrer dans le mouvement des phytovictimes et dans la dénonciation des effets des victimes sur la santé des travailleurs d'un point de vue de salarié. Alors c'est pour ça que je vous ai mis une photo là. Alors ceux qui ont des bons yeux reconnaissent ici Valérie Murat, qui est sur la photo. Et Valérie Murat, elle est à côté d'une personne qui est très connue dans le vignoble bordelais, dans l'espace militant du vignoble bordelais, qui est Marie-Lise Bibéran, qui vient de publier un livre où elle raconte son histoire et qui est très bien écrit, je vous le conseille, qui s'appelle « 20 et... » On vous le dira dans 20 ans, « 20 et bouche cousue », c'est ça. Hein. Donc elle est en train d'en faire la promo et elle raconte vraiment en détail son histoire. Et en fait, Marie-Lise Bibéran, c'est quelqu'un qui est ouvrière viticole, enfin, qui a des propriétés sociales assez particulières, mais qui en même temps a fait des études de droit assez poussées, et qui s'est intéressée à cette question-là de l'exploitation, de l'exposition des travailleurs agricoles aux pesticides, à la fois parce qu'elle elle-même, elle est ouvrière et donc elle est exposée, mais parce qu'elle a aussi perdu son frère, qui est mort à 47 ans, et qu'il y a de chances de penser que sa mort est liée à une exposition aux pesticides tout au long de sa vie. Et donc elle s'est engagée dans des démarches de reconnaissance post-mortem de la maladie de son frère comme maladie professionnelle, et ça l'a amenée à croiser la route de Paul François, à croiser la route de Phytovictime, et à essayer, à l'intérieur de ce mouvement-là, de porter en fait cette question de la représentation des salariés. Ça s'est fait de façon compliquée. Elle a fini par sortir, je ne vais pas rentrer dans les détails, de Phytovictime, en considérant que la voix des salariés n'était pas assez entendue. Hein, pour vous dire que c'est compliqué, c'est ces formes d'alliance entre représentation des travailleurs salariés et représentation des travailleurs indépendants. Mais en tout cas, ça a remis dans l'espace public et ça a mis au sein de l'association cette discussion autour des travailleurs salariés. Il y a d'autres acteurs qui ont poussé en fait finalement Phytovictime à s'approprier cette figure du salarié, en tout cas à y faire face et à la reconnaître et à lui donner de plus en plus de poids dans ses discours et ses mobilisations. C'est l'émergence d'autres collectifs de victimes qui, eux, ne venaient pas forcément du monde des indépendants agricoles, des gens qui naient du militantisme plutôt écologique ou des syndicats agricoles minoritaires plus proches de la Confédération paysanne, notamment la création, quelques années après la création de Phytovictime, va se créer dans l'ouest de la France, le collectif des victimes de l'ouest. Voilà, je crois qu'il y a des représentants ce soir en ligne. Je vois Serge Lequeau qui a été un acteur support très important syndical, support très important de ce collectif, et qui en fait eux vont accueillir, j'ai envie de dire, toutes les victimes indépendamment de leur statut et vont aussi se construire autour de victimes qui sont des salariés, puisqu'ils se sont beaucoup battus autour de la défense de salariés de coopératives agricoles, notamment la coopérative Triskalia, qui avait été intoxiquée. Voilà. Et donc, ça va être une autre représentation, en fait, hein, des victimes des pesticides qui va être portée. Et donc, Phytovictime, face à l'émergence de ces autres luttes, va être obligé de se confronter à ça. Et puis, il y a un troisième élément que j'évoque rapidement qui va apparaître. C'est la montée en puissance dans l'espace public des affaires d'intoxication chlordécone dans les territoires ultramarins. Et donc là, Phytovictime va aussi se mettre sur cette thématique parce que le problème devient incontournable, parce que aussi ils vont obtenir des subventions pour aller travailler sur ces questions aux Antilles françaises. Et donc progressivement, Phytovictime va faire évoluer son discours et son attention à cette question des salariés. Et ça va amener à des changements de discours, à des réflexions aussi sur du coup comment on représente la responsabilité des employeurs par rapport à celle des salariés.
Un autre thème souvent évoqué à cette antenne, c'est la question des riverains des pesticides, qui n'est apparu que récemment dans le paysage politique. L'avant-dernier chapitre du bouquin « L'agriculture empoisonnée » y est consacré, Les auteurs racontent que si des incidents ont lieu dans les années 70-80 déjà, notamment par exemple sur les épandages par avion, ce n'est que depuis les années 2000 que les riverains s'organisent et portent des protestations publiques. La première est celle des pomiculteurs de Corrèze autour d'Alassac au milieu des années 2000, où les habitants se sont opposés à une extension des zones de culture à cause d'abord des dégâts environnementaux qui en résultent, des coulées de boue ou du bruit, et progressivement à cause des épandages, 20 à 40 par an, dont les effets sur la santé des riverains commencent à être connus. Depuis, ces mouvements se sont multipliés et Giovanni Prete les a évoqués à la fin de son intervention.
On évoque les tensions autour des riverains. Comment il a été difficile pour les victimes des pesticides, exploitants agricoles, de faire face à la montée croissante, qui est toujours très forte aujourd'hui, des riverains exposés aux pesticides. Parce que pour les riverains, ils sont des empoisonneurs, ils restent des empoisonneurs. Alors ça a changé beaucoup. Donc on travaille avec Jean-Noël et avec Sylvain Brunier, aussi un autre collègue, sur les questions et puis Bastien Soudjis, on travaille sur la question des mobilisations de riverains. Pour la petite anecdote, il faut savoir, ça on le raconte dans le bouquin, mais que la première réunion de phytovictimes, au départ, l'intention de Génération Future qui avait organisé cette première réunion, c'était de faire une association qui réunirait toutes les victimes des pesticides, à la fois les victimes professionnelles, et les victimes non professionnelles, à la fois les agriculteurs et à la fois les riverains, les résidents, les passants, les marcheurs, etc., etc. Et en fait, ils se sont très rapidement rendu compte, là on est en 2009, très tôt, 2009-2010, que ça serait impossible parce que quand ils ont fait la première réunion, ils ont mis ensemble des agriculteurs et des riverains dans la même salle, ça s'est mal passé, quoi. Certains disant on est malade, on est des victimes, et d'autres disant mais vous n'êtes pas des victimes, vous m'avez empoisonné, vous empoisonnez mes enfants. Et donc, je le dis de façon un peu lapidaire, mais pour vous dire que ce n'est pas évident de mettre en cause. Alors, ça, c'est un sujet assez classique, pareil, de la sociologie, des mouvements sociaux et des luttes politiques. La question de comment on met ensemble des organisations de travailleurs et des organisations écologistes ou environnementales. Et comment on les fait tenir ensemble dans les mêmes luttes pour dénoncer des toxiques, pour dénoncer des mauvaises pratiques industrielles. C'est pas facile. Ça demande des médiateurs, des apprentissages, etc. Donc on essaye de raconter ça. Voilà. Donc peut-être quelques remarques conclusives. Et puis je vous invite, parce que je n'ai pas eu trop le temps de tout raconter, mais à lire le livre, évidemment. Ce que je pense qu'on peut en retirer de cet ouvrage, et nous, ce qu'on en a retiré, en gros, en tant que chercheur et personne intéressée à la fois par les mouvements sociaux, par l'agriculture, c'est l'intérêt d'analyser sur le... Ça semble assez basique de le dire, mais on n'a pas toujours les moyens de le faire, mais d'analyser sur le temps long, en fait, les mouvements sociaux, pas seulement au moment des mobilisations, pas seulement au moment des manifs, pas simplement au moment de la construction. Il y a beaucoup de travaux en sciences sociales qui portent sur comment des mouvements se créent, mais il y en a peu qui étudient dans la durée qu'est-ce qu'ils deviennent, effectivement, et éventuellement comment ils meurent. Alors ça devient un sujet qui est de plus en plus travaillé par des collègues, mais nous, ça nous a beaucoup enrichi de pouvoir suivre et de voir l'évolution, en fait, de phytovictimes, le changement de ces registres argumentaires, de ces cadres politiques, etc. Le deuxième chose qui nous a semblé intéressant, alors c'est particulièrement vrai dans le cas de l'agriculture où le familial et le productif sont mélangés, c'est l'importance de prendre en compte comment les dynamiques familiales, les dynamiques intimes peuvent avoir un effet, en fait, sur les engagements politiques. Voilà. Donc ça, on l'a vu avec le rôle des proches, avec les tensions autour des enfants, mais c'est vrai, ça, je pense, pour beaucoup de mouvements sociaux, et c'est travaillé par les gens qui s'intéressent aux biographies militantes. Et puis, le troisième point, c'est que, en fait, au départ, nous, on était parti sur une sociologie un peu des victimes et une sociologie de l'expérience de la maladie. Et en fait, ça nous a amené, notre travail, à lire de la sociologie rurale, à lire de la sociologie des médias, à lire de la sociologie du droit, parce qu'on a voulu prendre au sérieux les intermédiaires de la victimisation. Et c'est peut-être un petit peu ce qui nous distingue d'autres travaux sur des victimes, c'est qu'on ne se focalise pas que sur la parole des victimes, mais l'importance de prendre en compte le point de vue et l'action des gens qui sont autour d'eux, et de les replacer, ces actions et ces points de vue, dans leur leur monde vécu, leur propre dynamique. Et puis peut-être, nous, ce qui nous a semblé très important, et là, c'est assez basique aussi pour les sociologues des mouvements sociaux, mais l'importance des coalitions politiques. Ce qui nous semble vraiment éclairant et fort, c'est que, en fait, ce mouvement des fito-victimes, il n'aurait pas été possible sans des alliances entre des gens qui, politiquement, venaient pas du même endroit, venaient pas des... Et en fait, voilà, je pense que pour remettre en cause les pesticides comme technologie, pour remettre en cause des intérêts très forts, il est important que les mouvements sociaux, les associations militantes, etc., arrivent à construire des coalitions au-delà des fois des tensions qui peuvent les traverser, parce que c'est ça qui marche, et l'exemple des fito-victimes, je pense, on est un...
C'est sur cet appel à construire des coalitions de lutte qui évitent par tous les moyens l'entre-soi et la consanguinité, on pourrait dire, que nous terminerons cette présentation, en espérant vous avoir donné envie de vous précipiter dans la première librairie venue pour acheter cet ouvrage. De nombreuses autres études d'ailleurs sont mentionnées dans le bouquin. Signalons cet article de Madeleine Samak qui nous a beaucoup intéressés, qui étudie en détail les difficultés sociales d'adhésion des agriculteurs au mode d'agriculture biologique. On vous met tous les liens dans l'article lié à ce podcast. Je forme ici tous les vœux que le nouveau Front populaire qui se dessine nous redonne l'espoir de construire une agroécologie digne des enjeux actuels, ceux d'une reprise des terres, comme on dit au soulèvement, et du respect du vivant, de tout le vivant, humain et non humain. À la semaine prochaine.